Salut et bienvenue à tous, c'est le retour de l'émission L'eau à la bouche, 7e saison. Une émission mensuelle proposée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange, diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Divergence FM, Radio Clapas et Radio Larzac. En ce mois d'octobre 2011, nous vous proposons la retransmission d'une conférence intitulée « Vers la sobriété heureuse » par Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain, il est l'un des pionniers de l'agroécologie. Après avoir expérimenté sur sa propre ferme en Ardèche une méthode agricole pouvant redonner l'autonomie alimentaire aux plus démunis tout en sauvegardant leur patrimoine nourricier, il transmet son savoir-faire agroécologique à travers le monde, notamment dans les pays arides d'Afrique, en France et en Europe. 40 ans d'engagement au service de l'homme et de la nature. Samedi 24 septembre, à la MDE, la Maison départementale de l'environnement du département de l'Hérault, au domaine de Restinclière à Prades-le-Lez, Pierre Rabhi donnait sa conférence sous un chapiteau devant environ 300 personnes.
Nous avons acheté une ferme, nous avons fait un retour à la terre à partir du moment où, avec ma femme, nous avons constaté qui est bretonne d'origine. Et nous avons constaté que dans l'entreprise, ça ne nous satisfaisait pas. Voilà. On voulait nous rapprocher de la nature, nous voulions être donné à notre vie une autre configuration, une autre orientation, et le rapport à la nature était très important pour nous. Donc nous décidons de quitter Paris et on arrive en Ardèche, avec des recommandations des gens, etc. Et à ce moment-là, quand on arrive en Ardèche, je me rends compte que je n'avais aucune compétence en agriculture. Aucune. À la limite, on m'aurait dit que les melons fendus, c'est parce qu'ils sont tombés des arbres. Bon, j'aurais peut-être dit oui, voilà, sinon. Donc, il y avait une forme d'ignorance. J'avais vu chez moi des gens cultiver la terre, mais enfin, ça ne m'avait pas intéressé. D'autant plus que je suis plus d'ascendance nomade, pasteur, que d'ascendance terrienne. Agriculteur. Alors, une fois, je me présente naïvement au Crédit Agricole pour demander un emprunt. On me dit, est-ce que vous savez cultiver? Je dis non. Écoutez, allez apprendre, ce qui est normal. Allez d'abord apprendre votre métier. Et puis, vous revenez nous voir. Et après, on verra. Donc, il fallait apprendre le métier. Donc, je suis allé dans ce qu'on appelle des maisons familiales rurales. Qui m'ont donné, il a fallu que je force un peu parce que c'était payant, je devais payer, et que n'ayant pas beaucoup de moyens, j'ai forcé un peu pour obtenir mon brevet d'apprentissage agricole en un an plutôt qu'en trois ans, et parce que sous l'obligation d'avoir ce titre-là. Et ensuite, l'agriculture, vous savez bien que ça s'apprend pas que dans les bouquins, c'est la terre. On nous disait toujours la terre est basse, etc. Et que le métier est... Donc, je suis devenu ce qu'on appelle un ouvrier agricole. Et en devenant ouvrier agricole, c'est là que je prends connaissance véritablement de ce que signifie aujourd'hui l'agriculture moderne. Et là, je suis déconcerté par le fait que pour faire pousser des plantes pour nous nourrir, on est obligé de les empoisonner. D'empoisonner la terre, d'empoisonner les végétaux, d'empoisonner tout ça pour nous donner à manger. Et donc, j'ai bien vu qu'on rentrait dans un processus qui était un processus d'inspiration industrielle, mais qui nous faisait rentrer dans un paradigme nouveau, et qui était notre rapport à la terre, n'est plus simplement un rapport qu'avaient les paysans, à l'origine, spontanément. Où ils cultivaient la terre sans l'empoisonner, ils mettaient du fumier, ils mettaient des choses, mais enfin, il n'y avait pas recours, si vous voulez, à des engrais chimiques, de synthèse, il n'y avait pas recours ensuite à des pesticides, etc. Pourquoi ? Une toute petite parenthèse qui est quand même importante pour expliquer la différence entre l'agriculture moderne et l'agriculture dite biologique, puisque j'ai adopté cela. C'est-à-dire qu'en fait, dans le concept de l'agriculture moderne, la terre est un substrat dans lequel on met des produits. Il y a eu Monsieur Liebig, il y a eu des chercheurs qui ont bien vu que quand on met ces substances chimiques, qui sont d'origine donc synthétique, quand on mettait ces substances dans le sol, ça produisait mieux, plus fort. Seulement, ça a rompu automatiquement, ça a mené à comprendre la terre comme un substrat dans lequel on met ses produits, et ces produits stimulent les plantes, et les plantes stimulées vont grandir plus et produire mieux. Et les substances dont on disposait, ce sont des substances qui étaient utilisées pour la guerre. On avait fabriqué des nitrates pour la guerre. Vous savez, ça explose parfois, les nitrates, tout ça. Et du phosphore, etc., du potassium. Et en amenant cette chimie du sol, on oublie complètement qu'un sol, c'est vivant. C'est un être vivant. C'est un être qui a son métabolisme propre, qui a son fonctionnement propre. Et donc, par conséquent, on était dans une forte transgression par rapport aux lois de la vie. On était en train véritablement de remettre en question un processus très important qui est, je dis souvent aux gens, prenez une graine dans votre paume là, et une graine de tomate, une graine de ce que vous voudrez, et vous méditez dessus. C'est-à-dire que vous concentrez votre esprit sur cette graine insignifiante, et vous vous rendez compte que cette graine insignifiante, il y a déjà un programme dedans, un programme magnifique. C'est-à-dire qu'elle est une sorte d'ovule microscopique. Et dans cette petite graine de rien du tout, il y a des kilos de tomates, il y a des milliers de graines, etc. C'est-à-dire que la dynamique de la vie est là. Et elle est puissante. D'où le scandale de la faim dans le monde, qui ne se justifie absolument pas parce que la nature est prodigue d'une façon absolument extraordinaire. Alors une fois que vous avez pris cette graine et que vous allez la semer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'elle a déjà en elle les substances, elle a anticipé en quelque sorte sur son devenir et elle a stocké en elle-même les substances du rebondissement. Elle les a mis par anticipation en elle-même. Et dès le début, elle va d'abord commencer par se nourrir des réserves de nourriture qu'elle a stockées en elle-même, parce qu'elle ne peut pas passer sans transition d'une graine à une plante. Donc ce temps de transition, elle se nourrit avec les substances qu'elle a stockées. Et ensuite, ça permet aux racines de se développer, et à ce moment-là, elle va prélever les substances du sol. Et puis, elle commence à traverser le sol, à émerger, et quand elle émerge, évidemment, le soleil intervient, etc. Mais pour nous, il n'y a pas que le soleil qui intervient, puisque comme tout est vibratoire, et que nous sommes dans un bain vibratoire infini, eh bien, elle va bénéficier non seulement, évidemment, du soleil pour la fameuse photosynthèse qui va nous nourrir, mais en même temps de toutes les énergies vibratoires qui sont dans le cosmos, dans les autres planètes, etc. C'est ce que vous explique, par exemple, la biodynamie. Voilà. Et quand la plante a poussé, elle va se nourrir non seulement des substances terrestres, mais des substances célestes aussi. Et ainsi, elle crée une totalité. Et quand elle va grandir, elle va pousser, elle va fructifier, etc., et que nous mangeons cette plante, elle véhicule pour notre propre organisme, c'est-à-dire pour notre physiologie individuelle, chacun de nous dans cette salle, notre physiologie, c'est-à-dire l'intime de notre organisation physiologique, eh bien, elle va lui apporter les substances et les énergies dont cette physiologie a besoin. Si, évidemment, vous n'avez pas tout tué par des mauvaises cuissons ou des choses comme ça. Mais si vous respectez en quelque sorte un certain protocole, eh bien, ça nous relie aux forces terrestres et aux forces célestes. Et on est relié à cela, donc on est dans le cycle. Mais si vous utilisez des engrais, qu'est-ce qui se passe? Ces engrais sont traités de façon à avoir un pouvoir osmotique très puissant. Ces engrais sont traités. C'est évidemment le domaine et le royaume de la pétrochimie internationale qui y a défini en quelque sorte, et la médecine allopathique. Vous avez telle maladie, on vous donne telle substance, mais on cherche pas à vous prendre dans votre totalité en tant qu'être humain. On est parfois malade de nos émotions, on est parfois malade, vous le savez, on est malade aussi de notre vision, de notre, on n'est pas malade seulement physiologiquement, de la physiologie. Donc d'un côté, vous avez cette médecine de la physiologie et l'autre médecine qui prend en compte, et les Chinois ont été évidemment géniaux dans ce domaine-là, parce que la médecine chinoise, par exemple, prend l'ensemble de l'être humain, et le diagnostic ne se fait pas simplement par la physiologie, mais se fait aussi par l'énergétique, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Alors, dans le domaine de l'agriculture, eh ben, vous avez, quand vous mettez ces substances, elles ont été traitées pour avoir une puissance osmotique très forte. C'est-à-dire que la plante, quand ces substances sont là, elle ne peut pas ne pas les absorber. Parce qu'elle passe de force la paroi végétale, cellulaire, végétale, et elle dope la plante. Et quand la plante est dopée par ces substances, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet de chélation, c'est-à-dire, en fait, tous les oligo-éléments, les sels minéraux qui sont présents, la plante devrait absorber, ben, elle ne peut pas le faire. Donc, vous avez une plante carencée. Cette plante carencée, quand elle arrive, vous savez, la nature n'est ni bonne ni mauvaise, la nature a des règles et des lois précises. C'est comme ça qu'elle a pu tenir. Parce que si elle n'avait pas été rigoureuse, elle aurait été interrompue. Et on sait très bien qu'elle ira jusqu'au bout, si vous voulez, du processus. Et que, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, c'est là où on se rend compte que finalement, même si nous avons une puissance de nuisance assez forte, nous sommes totalement contingents. Et que quand vous avalez des substances nocives pour vous-même, bah c'est le cancer, c'est les maladies, c'est la pathologie. Mais aussi, quand la plante est malade, carencée parce que carencée, bah, il y a des interventions de champignons, de micro-organismes qui interviennent pour l'éliminer. Et vous avez les insectes qui sont en quelque sorte les flics qui interviennent pour dire cette plante ne peut pas reproduire parce que si elle reproduit, elle va faire rentrer le processus de la vie dans un processus de dégénérescence. Et comme la nature a horreur de la dégénérescence, puisqu'elle procède toujours par aller chercher la puissance, et c'est grâce à ça qu'elle a pu traverser les milliards d'années, eh bien, donc on est déphasé en quelque sorte, on est en transgression par rapport au système tout entier. Voilà, si on a compris ça, on comprend ce que veut dire l'agriculture biologique, l'agriculture écologique, c'est comment, en quelque sorte, rentrer dans le processus où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La nature s'en sortira, nous pouvons aboutir à une extinction par dégradation, par notre faute et par nos transgressions. Aboutir à un affaiblissement et à une dégénérescence physiologique, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la dégénérescence physiologique due au fait que nous buvons de l'eau qui est polluée, que nous respirons de l'air pollué, que nous mangeons une nourriture polluée. Donc comment voulez-vous que notre organisme, alors il essaye de compenser parce que nous sommes aussi détenteurs de cette puissance de la vie, mais comment voulez-vous que des agressions permanentes comme ça sur l'organisme ne se traduisent pas aussi par une dégénérescence physiologique, notre moindre résistance aux maladies, etc., et qu'on rentre dans le processus d'élimination de nous-mêmes par nous-mêmes. Donc ce qui fait que ça interpelle aujourd'hui plus que jamais, non pas les compétences parce que nous en avons, non pas les aptitudes parce que nous en avons beaucoup, mais l'intelligence, qu'on a très peu. Si des extraterrestres nous observaient, ils diraient ils sont surdoués mais crétins. Comment voulez-vous qu'ils puissent conclure que nous sommes intelligents avec tout ce que nous faisons à cette magnifique planète qui nous donne absolument tout, je veux dire, de quoi nous réjouir. Alors ce qu'on occulte, même en écologie beaucoup, on occulte le fait que, moi je suis écologiste parce que pas seulement pour défendre les forêts, la vie, etc., mais pour défendre la beauté aussi. La beauté, elle est importante. Parce que, qu'est-ce que la beauté? Ben, la beauté, c'est quelque chose qui nous prédispose à l'enchantement. C'est-à-dire qui met en nous l'enchantement. Et l'enchantement est une nourriture intérieure très importante. Si on n'a plus d'enchantement, si on est environné que de choses laides, que de choses mortes, que de choses qui n'ont, simplement parce que pratico-pratique, parce que on est toujours dans cette idéologie de l'argent roi, l'argent puissant, faut faire d'argent de tout, évidemment, on n'est pas dans quelque chose de juste. Il y a quelques années, alors tout ça pour vous dire que quand nous avons choisi le lieu où nous voulions vivre, les critères agronomiques n'étaient pas présents. Parce qu'il fallait que j'aille revoir le Crédit Agricole pour avoir un prêt. Alors, on trouve un lieu sans électricité, On a vécu 13 ans sans électricité, pas de téléphone, le chemin à peine praticable et les sols arides. Donc, quand, à l'époque, il y avait assez de fermes pour... Alors, je me présente au Crédit Agricole en disant, enfin, j'ai trouvé le lieu où nous voulons nous installer. Alors, quand il voit le descriptif, il est utile de vous dire que, il dit, votre dossier n'est pas recevable parce que nous ne voulons pas vous aider à vous suicider. Voilà. Vous n'y arriverez jamais. Et donc, du coup, désespéré, heureusement, il y a un sénateur qui nous a pris sous son aile et qui a défendu notre dossier. Mais ce qui était difficile à expliquer au Crédit Agricole, c'est que quand nous sommes installés dans ce lieu, la beauté du paysage a compté énormément, le silence, l'air pur, toute cette félicité, si vous voulez, que l'on a et qui nourrit notre âme, c'est ça qui nous a déterminés. Parce qu'on s'est dit, si nous avons cette richesse qui nous a nourri intérieurement, cette poétique, si vous voulez, de la vie à laquelle on ne veut pas renoncer, eh ben on aura l'énergie pour survivre. Seulement, dans un bilan, vous ne mettez jamais économique, vous ne mettez jamais, 300 euros d'air pur, 1000 euros de beau paysage. Si j'avais présenté mon dossier de cette façon, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a relayé complètement de notre système. Il est tellement devenu rationnel, tellement aride, tellement minéral, que nous souffrons vraiment profondément de manque de beauté. Et nous créons beaucoup de laideur. Beaucoup. Moi, je trouve parfois cette laideur qui s'installe insidieusement, où les choses ne sont pas belles. Quand vous voyez un vieux village de pierre, etc., il y a une âme, maintenant, on voit des trucs, c'est des boîtes à vivre, quoi. C'est des boîtes à... Mais l'âme des choses a disparu. Et ça, il faut prendre ça très au sérieux, parce que nous, êtres humains, on a besoin d'être nourris à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour moi, l'écologie, c'est parce qu'elle nous nourrit aussi intérieurement que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'écologie n'est pas, pour moi, restreinte à la biosphère, elle est aussi dans le vaste. Quand un soir d'été, vous admirez les étoiles, c'est l'écologie. L'écologie n'est pas seulement la planète. Elle est presque insignifiante dans ce monde gigantesque. Mais elle est une chance. Elle est quelque chose qui est en fait un vrai miracle. Parce que quand on étudie la conjonction des éléments qui sont intervenus pour que cette planète puisse exister, c'est véritablement miraculeux. C'est-à-dire que c'est une conjonction extrêmement rare qui fait qu'il y a une planète, mais à la fois vivante. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes conscients de cela? Je crois pas. Alors, qu'a fait la modernité? Bon, la désertification, évidemment, elle n'est pas d'aujourd'hui. Je vous invite à lire un livre que j'ai fait republier par mes amis d'Actes Sud qui s'appelle « La planète au pillage » d'un certain Osborne. Que dit Osborne ? Il reprend toute l'histoire de l'humanité et paradoxalement, vous savez, la révolution néolithique, c'est-à-dire quand on a découvert l'agriculture, vous savez qu'avant, nos ancêtres lointains étaient des cueilleurs, chasseurs, pêcheurs, c'est ce qu'on trouve encore ici ou là sur la planète. Mais à l'origine, c'était ça. Et quand il y a eu le phénomène agricole, à ce moment-là, le phénomène agricole a permis finalement à l'être humain non pas d'être dépendant seulement de ce qui lui est offert dans son milieu, mais il est capable d'agir pour produire sa sécurité alimentaire et pour être en sécurité alimentaire par l'agriculture, qui a donné d'ailleurs ses lettres de noblesse à la culture, etc. Seulement, il y a d'un côté des êtres sages, c'est-à-dire qui en fait ne prélève que ce qu'il aurait nécessaire pour vivre et n'abuse pas. Et puis il y a ceux qui au contraire sont déjà avides et rentrent dans le processus de toujours plus de surface, toujours plus, etc. Et c'est comme ça que l'agriculture a été aussi responsable de la désertification, paradoxalement, parce qu'on a voulu agrandir les parcelles, etc. Ça a donné évidemment les grandes civilisations dont nous admirons aujourd'hui les vestiges, mais ces grandes civilisations sont responsables en quelque sorte d'une grande partie de la désertification, et certaines civilisations anciennes sont en quelque sorte ensevelies sous le sable qu'elles ont provoqué par des déboisements insensé. Et donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'humain a engagé un processus d'élimination et de désertification de la planète. Et aujourd'hui, on est toujours dans le même processus où finalement, on continue à désertifier. Pourquoi ? Parce que nous ne percevons plus la planète comme une opportunité extraordinaire, mais comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre, en exhumant cette matière morte, ce qui sert maintenant de la dynamique de la vie et de la civilisation. Donc, avec les outils modernes que nous avons, qui sont d'une efficacité redoutable, notre esprit n'a pas changé. Et aujourd'hui, plus que jamais, compte tenu des moyens que nous avons de destruction, si la conscience collective n'émerge pas vers autre chose, c'est-à-dire, moi je parle jamais de prise de conscience, parce que ça me rappelle l'électricité, comme s'il y avait la conscience qui circulerait quelque part, et si vous avez une prise, vous vous mettez sur... voilà. C'est élévation de conscience. C'est-à-dire, l'élévation de conscience, ça veut dire que, symboliquement, quand vous gravissez une montagne, vous faites l'effort de gravir la montagne. Mais au fur et à mesure que vous gravissez la montagne, qu'est-ce qui se passe ? Votre champ visuel s'élargit. Et plus le champ visuel s'élargit, plus ce que vous voyez devient intelligible. Et plus ça devient intelligible, vous vous devenez intelligible. Et ce qu'on est en train de constater, c'est finalement la réalité d'abord dans le subtil. Vous voyez par exemple certaines actions subtiles, c'est avec l'être humain ou toute création part d'abord du subtil. Un exemple, vous prenez de l'homéopathie, vous faites des dilutions extrêmement élevées, c'est-à-dire que la matière disparaît, il ne reste plus que la signature, c'est-à-dire que le subtil est d'abord, ce qui nous rapproche évidemment de cet élément qu'on pourrait classer dans le monde métaphysique, qu'on ne comprend pas toujours, les ondes qui circulent et tout ça c'est du subtil, il n'y a pas une matière, et il n'y a pas une matière que nous pouvons appréhender. Donc ce qui veut dire que l'élément subtil est un élément très important, et tout ce qui s'incarne est révélateur de ce subtil. Donc on inverse un petit peu la perception. Voilà. Et donc à partir de là, ça devrait nous amener à comprendre que nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment. Alors en 2002, quand on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles, outre le féminin au cœur du changement, le changement d'éducation, réhabiliter l'économie, la vraie économie, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui économie n'est pas de l'économie, produire et consommer localement, quand je vois l'encombrement des autoroutes pour transporter de la nourriture de nord au sud, de l'est à l'ouest, alors qu'il y a il y a de quoi produire largement pour nourrir les populations là où elles sont, qui auraient un effet immédiat sur la pollution parce qu'il y a moins de camions, etc. C'est de la folie. C'est de la folie. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la croissance. La croissance et qui a en quelque sorte organisé la planète tout entière comme un champ de bataille commerciale, c'est-à-dire que c'est une espèce d'hypermarché dans lequel on se concurrence. La concurrence et l'antagonisme est devenu l'élément fondamental du système. Si vous regardez la planète de l'espace, la technologie nous le permet. Vous ne voyez rien contre rien, vous voyez pas le pôle Nord contre le pôle Sud, le continent américain contre le continent africain, l'éléphant d'Afrique contre l'éléphant d'Asie, il n'y a rien contre rien. C'est-à-dire que c'est là où nous sommes au cœur de cette merveille qu'on appelle l'écologie, c'est-à-dire que tous les éléments constitutifs du système sont des éléments, évidemment, qui sont dans une totalité et non pas dans une division. La représentation de ce qu'on a fait le genre humain, vous regardez ça sur une map monde. Qu'est-ce que vous voyez sur une map monde ? Eh bien, un puzzle. Un puzzle, chaque nation circonscrite dans un territoire qui est totalement artificiel, parce qu'en fait, la nature, elle, n'est pas divisée. Donc, si on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un projet de société pour le futur, c'est le projet qui partirait sur comment retrouver l'unité. Et qu'est-ce que nous apprend l'écologie ? Elle nous apprend l'unité. Que rien n'est, aucune espèce ne roule pour elle-même. Elle est à la fois dépendante des autres, c'est l'interdépendance. Mais cette interdépendance n'est pas de la dépendance, c'est-à-dire que c'est de la vie qui se répartit dans les différentes expressions de la vie. Et là, c'est magnifique parce que ça donne une unité. De même que le genre humain est un et indivisible. Alors, bien sûr, on a des apparences physiologiques selon le lieu où on est né, selon le climat, selon beaucoup de choses qui ont diversifié les apparences physiologiques. Mais dans la réalité, nous sommes absolument identiques. Absolument identiques. Dans nos attentes, l'être humain est identique à l'être humain. Les mêmes questions, les mêmes peurs, les mêmes aspirations, les mêmes douleurs, les mêmes... Tout ce que l'on veut, nous sommes identiques à nous-mêmes parce que le questionnement de l'espèce humaine, eh bien, il est reproductible partout. Et je dirais, vous pouvez marier une petite pygmée de 1m30, 1m40, un grand nordique, les yeux bleus, ce que vous voudrez, ils feront des enfants. Ça sera peut-être acrobatique, mais ils feront des enfants. Donc, il y a une unité absolue du genre humain. Et si on peut dire un projet de société future, c'est celle qui partirait de l'idée, évidemment, de prendre en compte l'unité de la vie et l'unité, disons, de la nature, l'interactif, l'interdépendant et l'unité du genre humain. Parce que si nous n'allons pas vers cette unité du genre humain qui a été mise à mal par les religions contre religions, par les antagonismes, combien d'antagonismes aujourd'hui, et vous voyez même l'histoire contemporaine, hein, ce qu'on est en train d'entendre, et évidemment, même dans les informations actuelles, on voit bien qu'il y a une exacerbation, en quelque sorte, de ce principe de division et de dualité, et que ce principe de division et de dualité s'exprime de mille manières. À la fois, je détruis l'autre par l'économie, je détruis l'autre par les armes, je détruis l'autre par le territoire, je détruis l'autre par l'idéologie, par tout ce que vous voudrez. Et donc, de ce fait, il n'y a qu'un seul projet de société qui vaille la peine, c'est construire l'unité. Alors, soit on garde le principe de la croissance économique, c'est-à-dire de toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais qui crée de la frustration, parce qu'il y a toujours quelque chose à avoir de plus. Soit nous allons vers la sobriété, et laquelle sobriété n'est pas serrer la ceinture, c'est au contraire se libérer. Nous sommes encombrés de matière inutile. Pourquoi nous sommes encombrés de tant de matière inutile qui a coûté de l'argent, il faut travailler pour l'avoir, etc., etc. Parce que probablement nous avons à combler le vide humain. On est incité, évidemment, tous les jours à n'être jamais satiable. Quel est le rôle d'une bonne publicité? C'est pas de vous dire, vous avez tout, soyez heureux. Vous mangez à votre faim. Tout le monde l'a pas, malheureusement, même dans les pays prospères. Et c'est là où il y a un drame. On vient de réduire, par exemple, de 60% le budget alloué à des gens qui n'ont pas à manger. C'est une horreur. Je comprends pas qu'on n'ait pas honte d'une chose pareille. Pour les armes, pour n'importe quoi, il y a de l'argent, mais pour l'humain, c'est pour ça que c'est une société déshumanisée. C'est parce que le système et la complexité du système a fait que nous avons transcendé ce qui est l'essentiel, nous sommes sortis de l'essentiel pour aller vers quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre vie? Dans notre vie, qu'est-ce qu'il me faut pour vivre? C'est ce que je disais tout à l'heure, nourriture, vêtements, que je sois dans une maison confortable et que je sois soigné ou que je me soigne. Voilà, ça c'est la base de ma survie. Et cela, c'est pas négociable. Si je n'ai pas cela, je ne peux pas vivre. Donc c'est une légitimité. J'avais vu à la télévision une publicité, enfin un débat qui était mené entre une journaliste et un monsieur qui s'était beaucoup enrichi. Alors on voyait à sa posture qu'il avait réussi. Voilà, mais réussi quoi? J'en sais rien. Il avait réussi. Enfin, en tout cas, il avait eu beaucoup d'argent. Et la dame lui pose la question, savoir, est-ce que vous ne vous sentez pas prédateur? Il dit, oui, bah, regardez la nature, voilà. Alors, c'est pour ça que c'est la difficulté de la télévision. C'est que moi, j'ai du mal à être avec la télévision parce qu'il y a des choses qui sont dites et que je ne peux pas réagir. Je peux rien dire. Je suis muselé. Alors, je vois cette scène et je me dis, mince, elle est passée à autre chose. C'était une évidence. Mais non. J'aurais été présent. J'aurais dit au monsieur, non monsieur, vous ne pouvez pas comparer la prédation humaine avec la prédation animale. Parce que dans la prédation animale, quand un lion a mangé une antilope, eh ben il se contente de son antilope. Il n'a pas de banque d'antilope ni d'entrepôt d'antilope. Il prend pas au-delà de ce qui lui est nécessaire pour sa vie. Et même, je ne sais pas si vous avez vu des scènes où le lion avec le buffle, etc., il y a comme ils boivent sur la même mare en paix. Il n'y a que la nécessité et la nécessité vitale qui pousse l'animal à agir.
Vous écoutez une conférence de Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur français. Il était à la Maison départementale de l'environnement le samedi 24 septembre dernier.
Mais l'être humain, eh bien, il est prédateur au-delà de ce qui lui est nécessaire. Ce qui fait que l'indispensable n'est pas résolu sur cette planète, puisqu'on dit qu'il y a à peu près un cinquième de la planète, des populations planétaires qui consomment les quatre cinquièmes des ressources produites. L'Afrique, on dit, ah, la pauvre Afrique, mais non, l'Afrique c'est très riche, le continent africain est très riche, il est fait 10 fois la superficie de l'Inde, presque, avec seulement 800 à 900 millions d'individus. Donc la faim en Afrique est un scandale. Les ressources existent suffisamment pour tout le monde. Seulement le problème, c'est que quand c'est rentré dans un système où c'est le profit qui prend le dessus, évidemment, à ce moment-là, on n'est pas du tout dans la logique de la vie. On est dans la logique de la prédation, on est dans la logique de la destruction, on est dans la logique de l'épuisement au détriment les uns des autres. Et cependant, quand je réfléchis à ça, moi-même, m'est arrivé longtemps d'aller en Afrique pour travailler, transmettre l'agroécologie, qui marche bien d'ailleurs, qui a Burkina Faso, ça prend beaucoup d'ampleur et la demande aujourd'hui est très importante à tel point qu'on crée une fondation pour pouvoir élargir. Eh bien, j'ai une maison, bien sûr, qui est belle, j'ai un environnement qui est beau, mais le contenu de ma maison ferait le désespoir d'un cambrioleur. Je ne vois pas ce qu'il y a de précieux qu'il pourrait prendre. Rien, tout est utile, ça a une utilité, mais ça n'est pas précieux. J'ai rien de précieux. Eh ben, néanmoins, avec ma sobriété à moi, quand je vais en Afrique, je deviens milliardaire. Et j'ai calculé qu'un village de 100 âmes, avec seulement le prix de ma voiture, qui n'est ni une Mercedes, ni encore moins, ni une Porsche, ni quoi que ce soit, c'est simplement un outil. D'ailleurs, un outil investi de tellement de fantasmes que c'est ça qui est aussi la manipulation mentale. Eh bien, une fois que je suis en Afrique, le prix de ma voiture pourrait nourrir un village de 100 âmes. J'ai calculé 6 ou 7 ans. C'est énorme. Et je n'ajoute pas tout le reste, si vous voulez. Donc, et la voiture, qui est un symbole en quelque sorte, qui est quelque chose, qui est un outil à se déplacer, c'est simplement l'outil à se déplacer, c'est tout. Seulement, il est enrobé du fantasme. La marque de ceci, la marque de cela, etc. Et puis il faut une jolie femme pour me faire acheter une voiture. Ben non, je peux acheter une voiture sans exposer une jolie femme et quelque part la dégrader parce que cette manipulation de l'être humain est la manipulation qui le transforme en être humain manipulable et donc dans l'insatiabilité, et on crée un climat de pénurie constante. Vous n'avez jamais assez. Ben non, on a largement assez quand on atteint le niveau où on répond à ses besoins. Le problème, c'est que les besoins élémentaires se solutionnent très facilement. Je viens de prendre un repas, ben je peux pas en prendre un tout de suite, il faut que j'attende ce soir. Je peux pas me dire, je vais reprendre tout de suite un repas pour ce soir, comme ça sera fait. Ben je ne peux pas, mon estomac s'y refuse. Donc je suis régulé par la nécessité qui me cadence et qui fait que les biens dont j'ai besoin sont cadencés et sont donc, j'y ai accès selon les bases des besoins. Mais le problème de la société, c'est que le superflu, lui, n'a aucune limite. Aucune. Personne ne vous empêche d'avoir 10 yachts, 50 avions privés, on vous admirera, on dira quelqu'un qui a réussi. Mais réussi à quoi ? De toute façon, il n'a pas pu passer un contrat avec Dieu pour être immortel. Et par ailleurs, il y a une chose qui manque aujourd'hui à ce monde d'aujourd'hui, c'est la joie. Et la joie, ça s'achète pas. J'en voudrais à Dieu, justement, si on pouvait acheter de la joie. Là, je dirais, c'est le comble de l'injustice, c'est que on peut même, avec de l'argent, acheter de la joie. Donc, on ne peut pas. Donc, ça nous ramène, évidemment, à une réflexion sur, finalement, qu'est-ce que nous faisons dans ce monde? Eh bien, je prétends que la sobriété, c'est une option que l'on fait, et cette option qui est libératrice. C'est-à-dire quelque chose qui nous, en quelque sorte, nous libère de cette insatiabilité permanente pour combler le vide que nous avons au plan humain. Si nous étions comblés au plan intérieur et plan humain, on considérerait la matière comme une matière simplement subsidiaire. Bien sûr, je mets de côté et à part les nécessités vitales. Donc c'est une matière subsidiaire. Eh bien, pour cette matière subsidiaire, nous polluons la planète, nous l'épuisons et nous épuisons l'être humain. Comment voulez-vous qu'on puisse approuver et trouver un bilan intelligent quand 30 à 40% de ce qui a été produit par l'humanité est à jeter? La nature n'a jamais fait ça. C'est à jeter, c'est du rebut. Et ce rebut, il faut en plus le conditionner, le traiter. Alors on dit ça crée des emplois, mais alors c'est complètement absurde, on ne crée pas des emplois. Si on partait sur l'idée de ne pas produire de rebut, eh bien à ce moment-là, on rentrerait dans la logique de la vie, c'est-à-dire le prélèvement nécessaire et non le prélèvement outrancier. Et qu'est-ce qu'on ressentirait? On ressentirait la satisfaction, qu'on n'est jamais en train de ressentir la satisfaction. Moi, je suis quand même d'une culture où il y avait des choses intéressantes en termes de... voilà. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous le saluez. Vous le saluez et vous lui dites « Est-ce que tout va bien ?» etc. Il vous dit « Alhamdoulilah ». Qu'est-ce que ça veut dire « Alhamdoulilah » ? Je suis satisfait, Dieu, voilà, je suis content, j'ai pas de problème. Voilà. Et aujourd'hui, la satisfaction a disparu. La gratitude a disparu. Tout ce que nous avons ne nous est pas dû. C'est l'être humain qui s'est mis propriétaire de la vie et... en étant propriétaire de la vie, il exige tout de la vie et finalement il fait de la vie ce que bon lui semble. Ce qui fait qu'on est sorti de quelque chose qui devrait être dans la norme à quelque chose qui est dans l'anomalie. Alors après on se pose des questions, mais au fond, à quoi sert l'être humain? Si on le regarde objectivement, c'est un destructeur, c'est un prédateur. Et en plus aujourd'hui avec nos technologies, la prédation, on a donné à notre esprit prédateur des outils d'une remarquable efficacité. Moi, je n'arrive pas à regarder la destruction des forêts parce que les outils qu'on a maintenant, vous savez, on a des outils mais terrifiants. C'est comme des espèces de grands sécateurs, un arbre magnifique qui est splendide, il est en bas en rien du tout. On ne suit même pas, c'est une machine qui le fait, qui coupe comme un sécateur, vous voyez. Des arbres magnifiques, des arbres vénérables qui sont les témoins de la beauté de la vie, qui sont les révélateurs de cette beauté magnifique. Aujourd'hui, on les détruit à grande vitesse parce que l'esprit n'ayant pas changé, on me demande les outils. Les outils, ils sont en quelque sorte entre les mains de conscience. Si la conscience elle-même n'a pas évolué, ça fait de nous des super prédateurs parce que nous avons tout le temps la même insatiabilité, la convoitise permanente, et cette convoitise permanente, on lui donne des outils pour qu'elle s'exerce encore plus violemment. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, nous sommes dans un ultimatum, si nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui nous avons à prendre soin de la vie. Au fond, quel est l'apanage de l'être humain? L'apanage de l'être humain, c'est justement d'admirer la vie, d'aimer la vie, de prendre soin de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a la conscience. Et la conscience, au lieu de faire de nous des gens, des êtres de compassion, des êtres de paix, des êtres qui vont prendre soin de la vie parce que nous en avons plus la responsabilité, plus que toutes les autres créatures, parce que nous avons un libre arbitre. Nous pouvons décider de ceci et de cela. Et ben, décider de ceci ou cela, c'est un apanage, mais qui doit être mis au service d'une conscience élevée, d'une conscience aimante, d'une conscience dans la dynamique de l'amour. Eh bien, au lieu de cela, on est resté prédateur de plus en plus, ce qui fait que les multinationales que nous récusons, eh ben, nous les alimentons chaque jour. Chaque jour, on renforce en quelque sorte les pouvoirs que nous récusons. Alors ça sert à rien de s'indigner contre. Il faut le faire. Mais si nous ne pouvons pas mettre en place des alternatives, eh bien, ça n'aboutira à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, nous avons un autre, disons, tout en évoluant, ce que je voulais raconter, n'a pas fait qu'être des discours. Nous avons avancé avec en incarnant les idées et les valeurs qui sont les nôtres, par la création d'écoles, par la création de structures. Je vous invite à aller sur Internet, vous allez voir Colibri, et Colibri va vous donner la liste de toutes les réalisations qui ont été l'incarnation pour signifier qu'autre chose est possible. Nous avons comme emblème le colibri. Le colibri, pourquoi le colibri? Parce qu'il se trouve que il y a une légende amérindienne qui est reliée directement au colibri. Et on lui voue un certain culte. Pourquoi? Parce que la légende dit qu'un jour, il y a eu un énorme incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés. Vous ne savez plus quoi faire. Par contre, le colibri, tout petit, tout insignifiant, il va prendre une goutte d'eau dans son bec, il la jette sur le feu, il revient. Et le tatou, à un certain moment, lui dit, mais colibri, c'est quand même pas avec ça que tu penses éteindre le feu. Et le colibri lui dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons adopté cette légende, parce que faire sa part, tous, chacun dans cette salle et bien ailleurs, chacun peut faire quelque chose qui va changer le monde. Seulement changer le monde, c'est pas simplement changer le monde par les structures, c'est changer le monde par nous-mêmes. Je ne crois absolument pas, je ne vais pas à 73 ans, croire qu'il suffira de changer de politique, de structure, etc. Ça, on sait. C'est pas ça qui change la société. Même l'agriculture biologique, je croyais naïvement que c'était quelque chose qui avait amené une pensée nouvelle. Non, pas du tout. L'agriculture bio, bientôt, ça sera dans les supermarchés et on fera du profit avec l'agriculture bio. On peut parfaitement manger bio, recycler son eau, chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. C'est pas incompatible. Donc, ne rêvons pas sur le fait que les structures ou les alternatives vont changer le monde. Le premier changement de la société, c'est le changement humain. Et pour qu'il y ait changement humain, il faut qu'il y ait changement individuel. Parce que c'est trop facile d'aller manifester contre les gens qui nous voient et pourrir la vie de ceux qui nous entourent. Et ça n'a pas de sens. C'est avec l'action que je peux mener personnellement et qui est à ma portée, c'est celle que je peux réaliser, c'est comment changer moi mon attitude, plus de compassion, plus d'amour, plus de pour que le monde puisse changer. Et quand je fais ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut induire. C'est-à-dire la haine induit la haine, l'amour induit l'amour. Parce que c'est presque une contamination qui se fait dans notre subconscient, qui n'est pas forcément visible, mais qui se fait réellement. Donc changer la société, c'est cela. Actuellement, on est confronté à une demande exponentielle. Faisons de la vie autrement, cultivons autrement, régénérons la vie, etc. Ça, cette demande est grandissante et les capacités à y répondre, elles restent quand même limitées. C'est pour ça que nous avons créé une fondation, de façon à ce que cette fondation collecte les moyens pour que nous puissions élargir cette action de l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie est importante? Parce que elle permet de se nourrir, de respecter la vie, de régénérer les sols, même en Afrique, c'est la gestion de l'eau pluviale, c'est le reboisement, c'est toutes ces choses-là qui rentrent dans la même, l'agroécologie comprend tout cela. Et c'est pour ça que je suis un inconditionnel de l'agroécologie. Et en même temps, ce n'est pas que de la technique. Ça modifie la perception que nous avons de la vie. Donc c'est aussi une philosophie. C'est une philosophie de vie où on s'inscrit je prends la posture de celui qui construit, régénère, protège, prend soin, et non pas la posture de celui qui détruit, pollue, etc. Donc c'est aujourd'hui, on est dans ce choix absolument fondamental. Et puis pour finir, donc les structures sont nombreuses, il y a le mouvement, et pour 2012, Nous avons décidé, enfin, ça a été une impulsion que j'ai eue, c'était pourquoi en 2012, à l'approche des élections présidentielles, est-ce qu'on ne constituerait pas un mouvement de gens qui, pour être plus clair, vous avez d'un côté le politique. Je ne critique absolument personne. Par contre, je pense que la politique n'est pas en adéquation avec le monde d'aujourd'hui. Alors les politiques, je suis pas dans leur conscience. Il y a des gens qui sont sincères, des gens qui sont autour de leur ego. Je le sais, tout ça. Je sais qu'ils sont dans leur parti et défendre à tout prix leur parti. Ce qui fait qu'on a l'impression que la politique aujourd'hui n'étant pas en phase avec la réalité, elle fait de l'acharnement thérapeutique sur un modèle qui est en train de mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion sur comment modifier le mode de réflexion pour ne pas perpétuer un modèle qui, à l'évidence, va se fracasser, est en train de se fracasser. Donc il faut que le politique maintenant élève sa vision et sa perception pour comprendre qu'il faut orienter l'histoire autrement que la faire aller dans cette obstination d'un système qui, lui, à l'évidence, est en train de tout détruire, au nord, au sud, partout. Avec l'argent comme puissance, on voit très bien aujourd'hui que le politique est subordonné de plus en plus à la finance. Et que la finance, évidemment, oblige le politique à prendre des résolutions qui ne sont pas forcément les résolutions justes, mais qui en même temps maintient les citoyens dans une posture qui est favorable à la finance. Donc c'est évident. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? C'est là où il y a beaucoup d'espoir, c'est que je suis amené à donner beaucoup, beaucoup de conférences, et chaque fois que je circule, je suis émerveillé de voir tant de gens prendre des initiatives formidables. Qui veut éduquer autrement, qui veut construire sa maison autrement, qui est soucieux de l'énergie, de l'économie d'énergie, qui est soucieux de comment se soigner, qui est... Une prolifération extraordinaire, la société civile est devenue un vaste laboratoire d'expérimentation d'intérêt général. Et je prétends que c'est la société civile qui est en train de préparer le futur. Par l'initiative des gens, partout, cette initiative que les gens prennent à leur risque et péril, c'est pas dans un plan quelconque, c'est-à-dire que c'est une forme d'insurrection, mais constructive. Ça rappelle un peu ce qu'on avait dit au moment de 2002, on a choisi comme slogan « Appel à l'insurrection des consciences ». C'est pas du tout la violence, j'y crois absolument pas, la violence ne génère que de la violence. Je suis pas gandhien à fond, mais Gandhi disait une chose juste, c'est-à-dire que de toute façon, œil pour œil et dent pour dent, ça ne donnera jamais que des édentés et des aveugles. C'est pas autre chose. Donc, ce qui veut dire que croire que la violence puisse modifier la société, c'est un leurre. Parce que c'est trop commode de trouver le bouc émissaire, la responsabilité, mais j'ai la responsabilité. Coluche disait, dire que on ne pouvait pas mieux, si vous voulez résumer la chose, Coluche disait, dire qu'il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas. Voilà. Et là, on a un pouvoir absolu, on ne peut pas mieux résumer. Si j'achète pas du superflu, et ben, les multinationales ont du succès à se faire, parce qu'elles, elles vivent justement sur le superflu. Et donc, pour 2012, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas, partant sur 2002, où on a quand même tiré parti, et des leçons très intéressantes de cette campagne, qui a réuni beaucoup de monde, on a eu presque 200 signatures d'élus, c'est pas rien, pour des gens, des boy scouts, quoi, on rentrait comme ça, mais on mettait en avant, évidemment, des valeurs fondamentales. On avait des salles pleines, c'était même festif, il y avait, pour ceux qui l'ont vu, Grim Allwright qui venait chanter, il y avait, etc. Donc on avait fait de cela quelque chose de festif, et sur les thématiques que je vous ai données tout à l'heure, le féminin au cœur du changement, évidemment la décroissance, enfin l'éducation, etc. Et nous nous sommes dit pourquoi. Alors 2007, des gens me demandent pourquoi tu te représentes pas, en s'y prenant de bonne heure, on aura les 500 signatures, etc. Je dis, mais une fois que j'ai les 500 signatures, je fais quoi avec? J'ai pas envie de créer un parti, j'ai pas envie de me rallier à un parti. Je fais quoi avec ça? Ça va décevoir beaucoup de gens. Je vais dire, ben, tu nous as mobilisés pour avoir les 500 signatures et tout ça, et maintenant tu n'en fais rien. Parce qu'en fait, la politique, pour moi, elle n'est pas la politique seulement. Je respecte les politiques. Moi, j'ai rien. Je suis pas du genre à, pourri, machin. J'aime pas ça. Mais parce que je ne suis pas dans leur âme et je ne peux pas les juger. Et on ne peut pas juger comment un individu peut arriver à être même un pervers. Ça ne veut pas dire que j'excuse, bien entendu. Mais je ne peux pas juger. Parce que chacun de nous a son histoire. Et quelquefois, on arrive à être dans l'horreur parce que notre histoire nous a prédisposé à cela. Donc je m'interdis du jugement humain. Par contre, je peux être féroce avec des options qui me paraissent terrifiantes. Là, récemment, je viens d'écrire une lettre de soutien aux faucheurs de vignes ou je sais pas quoi, de Colmar, par les OGM. Je suis intransigeant sur ces questions-là, parce que c'est carrément confisquer au genre humain la possibilité de se nourrir par lui-même, que d'éliminer les semences traditionnelles pour mettre des OGM. Donc ça, c'est les manœuvres grotesques de gagneurs d'argent, c'est-à-dire de gens pour qui le capital compte plus que la nature, plus que l'humain. Et nous n'avons pas le droit de les laisser faire. Nous avons le devoir absolu d'arrêter ces processus, parce que je vois des enfants dans la salle, et ben je suis souvent touché par le fait, demain, qu'est-ce qu'on va leur laisser, quoi, réellement? Est-ce que le monde sera viable pour eux ou non viable? Nous avons quand même la responsabilité, et on ne doit pas s'endormir sur ces questions. Elles sont fondamentales. Et alors on voit toutes ces évolutions, et nous nous sommes dit pour 2012, eh bien nous organisons un mouvement par colibri, et dans chaque région, il y aura des gens qui vont se réunir, des forums qui seront organisés spontanément par les gens pour instaurer le débat démocratique, mais surtout pour faire l'inventaire en quelque sorte et les échanges de tout ce qu'invente la société civile et qui n'est pas pris en compte par le politique. Parce que si un politique vraiment intelligent, ça devrait être quelqu'un qui prendrait en compte cette créativité de la société civile, qui est énorme, et faciliter en quelque sorte l'histoire. Aujourd'hui, je rencontre des jeunes qui ont fait même des grandes études, etc., et qui disent, moi, mon rêve, c'est un morceau de terre. Et travailler un morceau de terre. Eh ben, je suis obligé de leur dire, même si vous voulez vivre pauvrement, bah, commencez par être millionnaire. Parce que il pourrait y avoir une politique foncière. D'ailleurs, l'Hérault, ils ont une politique foncière très spéciale et que je salue parce que j'en ai bénéficié moi-même, et je salue le président Somade en particulier, qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, qui a été vraiment très très important avec l'appui de Pisani, etc. C'est comme ça qu'on a créé le CIEPAD, vous savez, vers Viol-le-Fort, voilà. Donc donc je ne peux qu'être très reconnaissant, si vous voulez, à ce type de politique. Et je crois que là, il y a un souci quand même de faire que le bien ou les potentialités d'une région soient quand même des potentialités qui soient quand même au bénéfice du plus grand nombre. Et là, je salue cette politique-là, vraiment. Mais par ailleurs, la politique foncière, il faudrait qu'elle change parce qu'il y a des aspirations énormes et ces aspirations sont en quelque sorte handicapées par le fait de la politique foncière. Et l'accès à la terre, moi je serais pour qu'on permette l'accès à la terre, mais sous des conditions draconiennes. Une charte de l'usage, un cahier des charges, les droits et les devoirs on ne prend pas simplement la terre comme ça, sans s'être formé, sans avoir préparé les choses. Et à partir de ce moment-là, avec les garanties que la personne s'est donné la peine d'acquérir les compétences suffisantes pour mettre en valeur un lieu, à ce moment-là, l'accès. Mais un accès qui sera organisé de façon à ce qu'il y ait le moins de confrontations possible, parce que j'avais lancé ça il y a quelques années, mais j'ai assisté à quoi? C'est-à-dire que je cautionnais des gens pour que d'autres mettent des terrains à leur disposition, et puis un an après, c'était la bagarre, ils ne s'entendaient plus, il y avait des conflits, etc. Et donc ça faisait foirer, si on peut dire, toute cette initiative. Ces initiatives organisées, structurées, peuvent aboutir effectivement à redéployer, parce que ça sera de toute façon une nécessité absolue, les populations en surnombre dans les villes vers les campagnes. Parce que quel est l'avenir autrement? croire que les villes peuvent grossir indéfiniment et être quand même nourries, etc., c'est un leurre. Aujourd'hui, on est en train de voir les paramètres concernant une pénurie alimentaire s'installer de plus en plus. Terres détruites, les semences, etc., les pluies de paysans, et transport de la nourriture, etc. Et puis, il y a un facteur aujourd'hui qui intervient concernant la sécurité alimentaire des populations, c'est que il y a un facteur qu'on ne peut pas maîtriser, c'est-à-dire les changements climatiques. Voilà. Et pour conclure, donc, je vous dirai une petite histoire, une toute petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, dans les années 60. Nous venions de trouver notre ferme. On était fauchés, comme on dit, vraiment pas d'argent. Moi, je faisais un peu des chantiers et on essayait de survivre comme on pouvait avec tout. J'ai ramassé des truffes, j'ai fait un peu d'artisanat, un peu de ferronnerie, un peu de menuiserie. Je faisais du chantier de bâtiment. Il se trouve que j'ai hérité, mes enfants aussi, d'une habileté manuelle venue de mon père. Et cette habileté manuelle, je l'ai mise au service de ma propre survie, la survie de ma famille. Et puis, nous n'avions pas d'argent, donc pour se chauffer, on avait, heureusement pour nous, on avait un peu de forêt. Et donc, tous les automnes, on allait couper du bois dans la forêt pour alimenter notre fourneau et notre cheminée. Seulement, comme j'étais tout seul à le faire, un jour, je rencontre quelqu'un qui était dans le même problème, je suis tout seul à faire mon bois, je lui dis, pourquoi est-ce qu'on passerait pas une convention? Tu viens m'aider à couper mon bois, et je vais t'aider à couper ton bois. Alors, ok, mais on n'a pas de tronçonneuse en arrière, vous savez, on a ces grandes scies qu'on prend, on appelle ça des passes, qu'on prend de bout à l'autre, et puis on met nos énergies ensemble pour couper les bois, mais uniquement système artisanal, avec des coins, avec de la masse, avec des choses comme ça, toutes simples, voilà. Pas de tronçonneuse, ce qui nous permettait, on n'était pas contre, mais on n'en avait pas les moyens de toute façon, je ne sais même pas si ça existait. Alors on est là, toute la journée, à écouter les oiseaux, c'était vraiment magnifique, au moment où on est la pause avec le casse-croûte en plein bois, quand vous écoutez des oiseaux, c'est une merveille. Voilà. Et donc la journée s'achève, finalement la journée s'achève, et puis le disque solaire descend, il rougit et il descend dans l'horizon, sur une fresque de couleur absolument magnifique, et c'est un instant extraordinaire. Et cerise sur le gâteau, il y avait un arbre qui se découpait comme ça, en silhouette, sur ce magnifique panorama. Et cet arbre était magnifique, gigantesque, il développait ses ramures dans le ciel, c'était une splendeur. Et moi j'étais là, silencieux, tellement pris par cette beauté, je suis en train d'admirer cette beauté, cet arbre, ce coucher de soleil, goûter au silence, goûter à toutes ces choses magnifiques. Et puis mon ami, lui, il était en train de ranger les outils. Il est étonné de me voir immobile. Il s'approche de moi. Je le prends comme ça. Je n'ai pas envie de troubler le silence. Je ne fais que le prendre par la main. Et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Voilà. Voilà.
C'est la fin de cette conférence de Pierre Rabhi intitulée « Vers la sobriété heureuse » enregistrée à la Maison départementale de l'environnement le samedi 24 septembre 2011. Merci tout spécialement à Radio Terra One pour l'enregistrement de cette conférence, à Natacha Nyon et son équipe, directrice de la Maison départementale de l'environnement à Prades-le-Lez. L'eau à la bouche, c'est fini. Pour ce mois-ci, Mathieu et Adrien vous donnent rendez-vous le mois prochain.